Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 14 novembre, ravi de vous retrouver, vous qui êtes au rendez-vous. 7 jours d'actualité, c'est maintenant. Nous partirons pour Dakar ou Conakry après le flash. Rendez-vous bien sûr avec vos messages. Notre invité est Yann Mince, notre ami Yann Mince, spécialiste des questions internationales, la rédacteur en chef d'Alternative Internationale, le magazine. Une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez aussi écouter en ligne et podcaster sur notre site rfi.fr.
Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini.
Vous en dites quoi, vous?
J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts.
Bonjour Yann, je voulais absolument cette entrée en matière pour vous saluer.
C'est très gentil, c'est très flatteur en plus.
Vous avez le spectre, non?
Pas encore.
C'est une manière, James Bond, de lire la géopolitique du monde depuis les années 60.
Alors, en général, tout le roman d'espionnage, c'est une façon de lire l'actualité des années 60. J'ai même un camarade d'études qui avait fait une étude très sérieuse quand on était à Sciences Po tous les deux sur OSS 117. Et il en avait lu un paquet pour pouvoir... traité, je crois, de la guerre froide vue par OSS 117. Donc effectivement, c'est très sérieux.
Bon, on va changer totalement de sujet, Yann, et parler de ce supplément d'Alternative Internationale, le climat, les solutions pour sauver la planète. On va parler tout à l'heure de la COP21. C'est un état des lieux, en fait, que vous faites dans ce magazine, qui est un superbe magazine, d'ailleurs, un grand dossier, un hors-série, comme on dit.
Absolument, un hors-série qui est réalisé par mon collègue Antoine de Ravignan, donc qui est un vrai spécialiste des questions d'environnement. Et effectivement, on a voulu faire deux choses dans ce numéro. D'une part, c'est donner un peu l'état des lieux de la question scientifique, politique, où est-ce qu'on en est en matière de réchauffement climatique, quels sont les impacts qu'on constate déjà, ce qu'on peut craindre, et puis d'un autre côté montrer ce qui se fait aussi, parce que tout ne se réduit pas à la COP21, tout ne se réduit pas à la négociation internationale, j'allais dire heureusement, il se fait aussi des choses, il se fait des choses d'abord au niveau national, dans chacun des pays concernés, il se fait des choses dans la société civile, même si le terme est un peu vague, mais enfin voilà, disons les associations, les citoyens organisés, etc., puis aussi dans les entreprises, et beaucoup dans les collectivités locales, les mairies, les régions, etc. Il se fait déjà des choses. C'est aussi ça qu'on a voulu montrer. Tout ne se réduit pas à la COP, même évidemment, la conférence internationale est très importante et le fait qu'elle se tienne à Paris est pour la France très symbolique, etc. Et pour François Hollande très important politiquement aussi. Mais c'est ce qui se fait déjà qui est important, plus encore que la négociation elle-même et son résultat.
Alors nous allons en reparler tout à l'heure, on va reparler aussi des grands titres de l'actualité internationale, comme d'habitude avec vous. Mais je voudrais signaler que demain, dans le magazine Idée, nous rediffuserons une émission qui avait pour invité André Glucksmann en 2009, le philosophe qui nous a quittés cette semaine. Mais écoutez tout de suite ce que disait mardi sur notre antenne l'ancien rédacteur en chef du magazine Lire, Pierre Bonsen, sur la probité de cet intellectuel engagé, comme on dit.
Glucksmann a été un militant très très engagé dans le maoïsme à un moment donné. Je me souviens très bien qu'il y a une dizaine d'années, dans une interview, il a vraiment déclaré sans embâge qu'il exprimait sa honte, vraiment il prononçait ce mot, sa honte d'avoir pactisé avec des massacres horribles du maoïsme. Enfin, il disait que c'était une inexcusable imbécilité. Et ça, de la part de l'intellectuel, etc., c'est rarissime. C'est beaucoup de les nouveaux philosophes, même des ex-nouveaux philosophes, qui, pour la plupart aujourd'hui, sont toujours très fiers de leurs engagements maoïstes d'avant, ne sont jamais revenus là-dessus, sont passés ailleurs. Tandis que Glucksmann, sur cet épisode-là, il a vraiment été clair, et moi je crois qu'il faut lui rendre hommage pour ça.
Propos recueillis par Sarah Tisser.
7 jours dans le monde.
Alors nous allons partir maintenant, Yann, pour la Birmanie, où dimanche il y avait une élection présidentielle historique, vous le savez, nous allons voir pourquoi avec vous elle était historique, Yann, dans un instant. Mais écoutons d'abord ce reportage quelques heures après le vote de notre correspondant Rémi Favre.
Le président de la commission électorale intervient à la télévision. Il annonce des résultats partiels dans quelques circonscriptions seulement. La LND les remporte presque toutes. Devant le siège du parti, des centaines de sympathisants ont les yeux rivés sur un écran géant qui retransmet également ses premiers résultats, largement favorable à la LND.
C'est la première fois de ma vie que je me sens aussi heureux. Ça y est, c'est la première étape vers la démocratie.
24 heures après la fermeture des bureaux de vote, la commission a confirmé les résultats dans une vingtaine de circonscriptions seulement.
J'ai observé le scrutin dans mon bureau de vote. Nous avons déjà les résultats et nous les avons déjà envoyés à la commission. Pourquoi ne les donne-t-il pas? Je ne comprends pas, c'est lent.
et certains sont donc inquiets.
Par exemple, en 1990, la LND avait remporté une victoire écrasante. Mais après les élections, les militaires n'avaient pas transféré le pouvoir. C'est cela dont j'ai peur.
Cette année, le président et l'armée ont promis de respecter la volonté des électeurs.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Yann Mins. Cette victoire a été confirmée depuis cette correspondance de Rémi Favre. C'était attendu et c'est quand même historique, Yann.
Alors ce qui était historique, c'est que des élections soient libres en Birmanie, parce que ça faisait une cinquantaine d'années, 1960 je crois les dernières. Il y en avait d'autres des élections entre-temps, mais elles avaient été annulées notamment il y a 25 ans. Gagnées déjà vraisemblablement, certainement même par la LND, mais les militaires, donc le parti d'Aung San Suu Kyi, mais les militaires avaient annulé le scrutin. Donc là on a une élection libre, ce qui est déjà très important évidemment pour un pays, de pouvoir voter librement, avoir une alternance au pouvoir. Alors ce qui est encore plus impressionnant, c'est la victoire visiblement écrasante d'Aung San Suu Kyi, parce qu'il y avait un parti soutenu par les militaires, le parti au pouvoir, qui évidemment bénéficiait du soutien d'une partie de l'appareil d'État. Et puis il y avait tout un tas de partis qu'on appelle ethniques là-bas, parce que la Birmanie est un pays assez morcelé ethniquement. Il y a une ethnie majoritaire, mais il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup de partis ethniques. Et visiblement, en dépit de ce morcellement, la LND a fait un très bon score. Maintenant, ça ne garantit pas du tout qu'elle va pouvoir gouverner comme elle voudra.
Parce que la question de savoir ce qu'elle va faire de cette victoire, parce qu'elle ne peut pas être présidente du pays, puisqu'elle est mariée avec un
Elle a été mariée, c'est la veuve d'un ressortissant britannique, et elle a deux enfants qui sont de nationalité britannique, ce qui, en vertu de la constitution birmane, lui interdit d'être présidente. Alors Aung San Suu Kyi n'a pas encore fait savoir, je pense, qui serait le candidat qu'elle soutiendrait de son parti. En revanche, elle a déjà dit, ce qui est assez original, que qui que ce soit, de toute façon, ce serait elle qui aurait la réalité du pouvoir. Ce qui est un peu étrange comme façon de voir les institutions, mais bon, c'est vrai qu'elle a une autorité confirmée par les urnes. On pouvait avoir un peu de doute d'ailleurs qu'elle soit à ce point confirmée, parce qu'il y a déjà des critiques contre Aung San Suu Kyi en Birmanie, mais elle a été confirmée, enfin, son parti a été confirmé. Maintenant, plusieurs limites. La première limite, c'est qu'il y a 25% des sièges de l'Assemblée qui sont réservés à des militaires désignés par l'armée. Donc il y a déjà...
Étrange disposition d'ailleurs.
Étrange disposition. Et en même temps, comme il faut 75% des sièges pour modifier la Constitution, ça leur donne une minorité de blocage possible en tout cas. Pas certaine, mais possible. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de ministères qui sont réservés à l'armée, 3 ou 4 postes. Et enfin, les affaires purement internes militaires, qui ne sont pas que des affaires de strictement militaires, mais qui sont des affaires économiques, parce que l'armée est très impliquée dans l'économie. Ça, il n'est pas question qu'Aung San Suu Kyi y touche. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée, jusque-là, avait refusé de la rencontrer. Visiblement, il vient d'accepter de la rencontrer, ce qui est une reconnaissance du fait que même l'armée, même le cœur du cœur de l'armée, je dirais, reconnaît sa victoire, ce qui est déjà énorme. Et elle fait très attention, je crois, à ne pas braquer les militaires, parce qu'elle sait que tout ça est très fragile et se souvient des élections précédentes.
Alors, la disparition d'André Glucksmann, du philosophe français André Glucksmann, vous inspire un commentaire. Vous avez entendu Pierre Bonsen, hein, qui a écrit, on l'avait reçu dans Idée pour cela, un livre sur Simon Lès, il était l'ami de Simon Lès, qui reconnaît que Glucksmann a été honnête par rapport à son engagement, aux erreurs qu'il a faites avec son engagement.
Je pense que la force de Glucksmann, ça a été de le dire publiquement, urbi et orbi, comme on dirait au Vatican, alors que d'autres l'ont fait...
On n'est pas beaucoup maoïste, d'ailleurs.
On n'est pas très maoïste, non. Alors que d'autres l'ont fait plus discrètement. Pour moi, André Glucksmann, c'est très identifié, personnellement, je veux dire, à l'époque de mon bac, il y a très longtemps, donc presque 40 ans en arrière.
Pas tant que ça.
40 ans en arrière, quand même, enfin presque, 39. Où effectivement, je me souviens d'émissions de télé, notamment avec Glucksmann, Bernard Lévy, qui symbolisait ce qu'on appelait les nouveaux philosophes à l'époque. Ouais. C'était une émission d'apostrophe, exactement, de Bernard Pivot. Et c'était la dénonciation du totalitarisme communiste. Et en gros, l'idée, c'était que le ver était dans le fruit d'une partie de la pensée, et pas seulement de l'exercice du pouvoir par l'Union soviétique. C'était un argument assez fort à l'époque où il y avait quand même encore en France un parti communiste, et des sympathisants communistes très nombreux. Ça avait donné lieu à beaucoup de débats. Je me souviens, mon prof de philo de terminale m'avait dit, vous verrez, ces gens-là finiront à l'extrême droite. J'étais très sceptique et effectivement, je suis content qu'il n'ait pas fini à l'extrême droite.
Une semaine d'actualité.
Et nous devons parler, Yann, d'un double attentat suicide revendiqué par l'État islamique qui a fait plus de 40 morts et plus de 240 blessés jeudi dans un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Correspondance de Paul Khalife.
Deux kamikazes ont choisi de faire détonner leur ceinture d'explosifs à une heure de pointe devant un centre commercial du quartier de Burj el-Barajni dans la banlieue sud de Beyrouth. Les explosions survenues à moins d'une minute d'intervalle ont provoqué des dégâts considérables dans ce fief du Hezbollah. Le souffle des déflagrations a arraché les devantures des magasins, endommagé les façades des immeubles et a provoqué des incendies dans les voitures stationnées dans la rue visée. Des corps ensanglantés gisaient sur la chaussée. Dans la confusion qui a suivi le double attentat, des combattants du Hezbollah et des soldats de l'armée libanaise ont bouclé le quartier. Des sources proches du Hezbollah ont annoncé qu'un troisième kamikaze a été abattu avant qu'il ne parvienne à actionner le détonateur de sa ceinture explosive. Un quatrième kamikaze aurait pris la fuite, selon les mêmes sources. Mais cela n'a pas empêché des centaines de personnes de se rendre sur les lieux de l'attentat, au risque de gêner les opérations de secours. Cette attaque, la plus violente qui a frappé le Liban ces dernières années, a provoqué une vive émotion dans le pays et a été fermement condamné par l'ensemble de la classe politique libanaise.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann, la Commission européenne a donc décidé d'imposer une mention d'origine sur les produits importés des colonies de peuplement juives implantées dans les territoires occupés palestiniens depuis 1967. Une décision présentée comme technique par Bruxelles, malgré les protestations d'Israël, qui a évidemment vivement réagi. Reportage en Cisjordanie, signé Nicolas Roper.
Iron Rosenblum pénètre dans l'une de ses serres où il fait pousser du basilic. Cet exploitant israélien installé en Cisjordanie dit ne pas comprendre la décision de l'Union européenne.
Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il y a des conflits. Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls qu'ils veulent étiqueter? Ils ne nous détruiront pas. Nous avons toujours trouvé des solutions. On s'adaptera.
Mais cette initiative pourrait aussi pénaliser les 12 000 Palestiniens qui travaillent dans des colonies agricoles. Une inquiétude pour cet employé palestinien d'une ferme de date.
Si les produits ne sont plus vendus, où est-ce qu'on va travailler, nous? Il n'y a pas de boulot ailleurs. Cette décision sera un problème pour nous. On veut simplement gagner notre vie, c'est tout.
Sentant le vent tourner, des exploitants ont commencé à se tourner vers d'autres marchés, ce que confirme David El-Raini, responsable du conseil régional de la Vallée du Jourdain.
On a compris qu'il y avait un problème, on a senti que ça pourrait empirer, donc beaucoup ont arrêté de vendre en Europe. Désormais, en moyenne, 80% de nos produits vont vers la Russie, les États-Unis, l'Inde, et nous cherchons d'autres marchés.
Les colonies israéliennes de Cisjordanie sont considérées comme illégales au regard du droit international.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann, vous avez sans doute aimé le scandale de la FIFA. Eh bien, vous aimerez sans doute celui qui secoue l'athlétisme international après des révélations de corruption qui mettent en cause la Russie, mais pas seulement Alexandre Seban.
Suite aux révélations de la télévision allemande ARD en décembre 2014 puis en août 2015, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, a mis sur pied sa commission indépendante pour enquêter sur les allégations de dopage et de corruption. Parallèlement, la justice française s'est emparée de l'histoire avec des perquisitions et des auditions qui ont abouti la semaine dernière à 3 mises en examen. La plus explosive a été celle du Sénégalais Lamine Diack, 82 ans, ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme, l'I2AF, pour corruption passive et blanchiment aggravé. Hier donc, l'AMA a rendu public un rapport explosif qui confirme l'existence d'un dopage organisé au sein de l'athlétisme russe. Mais on y apprend aussi que la Fédération internationale et le laboratoire de contrôle antidopage de Moscou en étaient complices. De facto, Dick Pound, un des auteurs du rapport, recommande la suspension de la Russie pour les Jeux de Rio en 2016, la suspension à vie de 5 athlètes russes, parmi lesquels la championne olympique du 800 mètres, Maria Safinova, et le retrait de l'accréditation du laboratoire antidopage de Moscou. On explique aussi que le gouvernement russe, comme lors des plus sombres heures de l'URSS, ne pouvait pas ignorer toutes ces pratiques.
L'actualité internationale, c'est aussi Haïti. Plusieurs milliers d'opposants au président Michel Martelly ont manifesté dans les rues de Port-au-Prince jeudi et ces dernières heures pour protester contre les résultats préliminaires du premier tour du scrutin présidentiel publié il y a une semaine. C'est aussi cette information assez étrange, Yann, qui ne vous a pas échappé. Les services de renseignement allemands auraient espionné Laurent Fabius?
Il faut croire qu'il pensait trouver dans le téléphone de Laurent Fabius ou dans ses messages, je sais pas quelle était la méthode employée, des choses qu'il ne savait pas déjà. Ça traduit une absence de confiance au sein du moteur franco-allemand, comme on a l'habitude de dire, qui est un peu inquiétante.
Des écoutes pour les Américains d'ailleurs, hein, a priori.
Pour le compte des Américains, ouais. C'est encore plus inquiétant. Ça veut dire que c'est de la sous-traitance à ce moment-là.
Alors, puisque nous parlons de l'Allemagne, il faut signaler la mort d'Helmut Schmidt, qui a été un grand chancelier.
Tout à fait. Hein. Là encore, c'est un homme qui a marqué vraiment le couple franco-allemand à l'époque. C'était Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing. C'était une époque où effectivement, il y avait encore en Europe un espoir. Alors, il était peut-être plus réservé à une partie des élites politiques. Ça n'est qu'après, à partir du moment où Maastricht est arrivé, où effectivement la population peut-être a été plus impliquée dans les décisions. À l'époque, c'était une Europe un peu élitaire ou élitiste, mais c'était visiblement des gens qui, en dépit du fait qu'ils venaient de bords politiques, n'étaient pas toujours les mêmes, arrivaient à s'entendre. On l'a vu ensuite avec Mitterrand et Kohl de la même façon.
Alors, le retour, hélas, du terrorisme à Beyrouth, j'espère un commentaire sans doute.
C'est extrêmement inquiétant parce que le Liban est un pays fragile. Alors, il est clair que l'État islamique frappe là pour des raisons militaires et politiques, parce que le Hezbollah est directement impliqué dans le conflit syrien aux côtés de l'armée syrienne et des milices iraniennes et irakiennes. Donc effectivement, pour l'État islamique, c'est un adversaire de terrain militaire. Et à défaut de pouvoir le frapper sur le terrain militaire, on le frappe dans sa base civile, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est que la population chiite libanaise dise au Hezbollah, mais pourquoi aller se battre aux côtés de Bachar al-Assad, pardon. Donc effectivement, c'est une façon d'essayer de terroriser les chiites. Ce qui est inquiétant, ce qui est très inquiétant, c'est que le Liban est un pays fragile, divisé, et que si jamais ça induit de la répression contre la communauté sunnite du Liban, on peut avoir un cycle de vengeance, de répression qui peut être extrêmement extrêmement nocif. Le Liban a déjà vécu 16 ans de guerre civile entre 75 et 91. Il y a eu d'autres incidents réguliers qui n'ont pas dérivé en guerre civile. Il ne faudrait vraiment pas que le Liban cède.
Alors, sur fond, vous l'avez dit, de crise politique et de défiance de la population à l'égard du politique, enfin des hommes politiques.
Hein. Au Liban, bien sûr, oui. Il y a un mouvement qui a un curieux nom qui s'appelle Vous Puez, effectivement, alors qu'il y a un mouvement parti, il s'appelle Vous Puez parce qu'il est parti d'un mouvement de protestation à propos des dépôts d'ordures, etc., qui avait été fermé, voilà. Mais en fait, qui vise la classe politique libanaise, qui est une classe politique très, très oligarchique. On a des députés qui sont députés souvent de père en fils ou d'oncle en neveu ou de neveu en oncle. Donc depuis des générations, ce sont les mêmes familles qui contrôlent, les mêmes fiefs. Et effectivement, ça fait une politique extrêmement fermée, très très déconnectée des préoccupations de la population.
Alors la décision de l'Union européenne d'étiqueter les produits israéliens fabriqués dans les colonies israéliennes vous inspire aussi un...
Ouais, deux choses simplement. Je suis étonné, évidemment, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a protesté en disant que c'était un scandale. Mais ce qui est un scandale, c'est sur le plan juridique, c'est l'occupation de la Cisjordanie par Israël, qui est parfaitement illégale au regard du droit international. Et ce qui est encore plus illégal au regard du droit international, c'est de faire des colonies dans un territoire qu'on occupe militairement. Ça, c'est parfaitement interdit. Mais ça, visiblement, Netanyahou, ça ne le gêne pas. Or, on est aujourd'hui en Cisjordanie, si mes souvenirs sont bons, à 350 000 colons, ce qui est quand même énorme. La deuxième chose, c'est que, comme le faisait remarquer le travailleur palestinien interviewé par Nicolas Repère, il faudrait que parallèlement, l'Europe aide les produits palestiniens, eux, de Cisjordanie, à s'exporter pour que les gens qui ne puissent plus travailler éventuellement dans les colonies, les Palestiniens, je veux dire, puissent trouver du travail en Cisjordanie.
Alors Yann, je connais votre amour du sport. Un commentaire sur ces scandales après la FIFA, la Fédération Internationale d'Athlétisme.
Ce qui me frappe, c'est qu'on...
Pourtant le sport est une jolie chose, je vous l'assure. Hein.
Je vous crois sur parole, je promets de ne pas trop près m'en approcher. Ce qui me frappe, c'est quand on critique toujours le sport business, et à juste titre. Oui. Là, en l'occurrence, c'est le sport politique. C'est un État qui est en cause, c'est la Russie qui est en cause. C'est la Russie qui veut gagner des médailles pour sa plus grande gloire sur la scène internationale, pour son rayonnement.
Une vieille habitude.
Pour le soft power, comme disent les politologues, pour son influence, pour son image, et qui est prête visiblement à toutes les bassesses. Alors, dans les temps peu glorieux de l'Union soviétique, c'était du dopage forcé, des manipulations de toutes sortes, y compris les plus horribles. Là, aujourd'hui, on est à des choses plus subtiles avec des valises de billets, visiblement.
Avec toujours de l'argent, effectivement.
Avec toujours de l'argent.
Merci Yann, on va se retrouver dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces derniers jours, et continuer à parler de l'actualité, là ça sera surtout l'actualité africaine. A tout de suite donc. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de notre ami Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative International. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, comme d'habitude. Rendez-vous avec vos messages dans quelques minutes. Mais d'abord, un point sur l'actualité française et un attentat contre des militaires déjoués à Toulon. Franck Alexandre, mercredi.
Il se prénomme Hakim. Il est né à Toulon et depuis un an, il était dans le collimateur des services de renseignement. Radicalisé, affichant un soutien public aux thèses djihadistes, il avait tenté en octobre et décembre 2014 d'aller en Syrie. Mais alors qu'il était surveillé, il s'est fait livrer par la poste un colis qui a éveillé les soupçons car le paquet était éventré. À l'intérieur, un couteau de combat et au moins une cagoule, une découverte qui a précipité son arrestation le 29 octobre dernier. En garde à vue, il a reconnu être en contact avec un Français qui se trouve en Syrie dans les rangs de Daesh et qui est bien connu de la justice pour avoir en 2012 proféré de violentes menaces contre Charlie Hebdo. Par internet, ce djihadiste originaire de Roubaix incitait le jeune Toulonnais à passer à l'acte. La cible retenue, les marins de la base navale de Toulon, le plus grand port militaire d'Europe, mais de sources policières, il n'avait pas encore de plan très précis. Ces attaques menées par des Français en contact avec des djihadistes sont l'une des principales craintes des services de renseignement. Le Premier ministre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, ont donc salué hier soir l'efficacité des services de police.
Quittons la France pour Malte où se tenait un sommet où était représentée à la fois l'Europe mais aussi l'Afrique. Sommet sur les migrants, notre envoyé spécial Léonard Vincent fait un bilan de cette rencontre.
C'est une Afrique unie qui est venue à Malte discuter des propositions européennes. Le texte préparatoire du sommet montrait qu'Européens et Africains étaient d'accord au minimum pour souligner l'urgence de sauver des vies et de s'attaquer aux causes profondes de la migration. Mais les traductions concrètes ont été difficiles et le résultat n'est finalement que le début d'un long processus. L'accord final n'est qu'un cadre politique, soulignent les diplomates. L'Europe est convenue d'apporter une aide de 1,8 milliard d'euros aux pays du Sud pour mieux gérer les réfugiés et la sécurité de leurs frontières. Des projets pilotes vont être lancés en 2016 pour soutenir les économies locales et favoriser l'emploi, mieux former les jeunes Africains et leur donner des raisons de rester au pays. Mais l'Europe va également soutenir la lutte contre le trafic d'êtres humains, améliorer la sécurité des frontières, mais aussi mieux accueillir ceux qui ont quitté leur pays. En revanche, pour ce qui est du renvoi dans leur pays d'origine des sans-papiers en Europe, peu d'avancées. 10 pays volontaires vont participer à une expérience visant à mieux déterminer la nationalité des migrants qui pourraient être renvoyés sur la base du volontariat, mais rien de plus. Un premier bilan sera dressé en 2017.
Alors, puisque nous parlons d'actualité française, j'ajoute qu'Air France a sanctionné 16 salariés, dont 4 vont être licenciés à la suite des violences dont on avait parlé, qui avaient émaillé le comité central d'entreprise le 5 octobre dernier. Vous savez, la chemise du DRH qui avait eu quelques problèmes. Yann, il y a une question d'un auditeur qui est arrivé. Bonjour, monsieur Yann Mince. Aujourd'hui, pourquoi l'Occident ne veut plus de migrants sur son sol? C'est lui-même qui est à la base des crises au sud, écrit Chiaka Haïdara.
Bon, je pense que l'Occident, au sens large, a une part de responsabilité, singulièrement la France, dans ce qui se passe au sud du Sahara notamment. Mais très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les responsabilités sont assez équilibrées. Il me semble que les Africains sont les premiers à devoir prendre leur destin en main et à ne pas trop avoir le réflexe qui peut arriver quelquefois de dire « Ah, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'Occident ». Il y a le passé colonial, il y a des relations inégales économiques, etc., certes, indubitablement. Mais il y a tout un tas de choses qui relèvent de la responsabilité spécifique des Africains. Si aujourd'hui, des présidents, par exemple, modifient les constitutions pour s'attribuer un troisième mandat ou un xième mandat, très honnêtement, ça, c'est pas du tout quelque chose qui relève de la responsabilité première des Occidentaux. François Hollande peut faire des déclarations un peu stupides à propos de ce qui s'est passé au Congo avant de se reprendre, mais ça n'est pas lui qui peut ni empêcher ni aider le président Sassou à se reconduire au pouvoir, ni le président Kagame, ni le président Nkurunziza. Ça, ce sont des choses qui doivent être réglées par les Africains.
En tout cas, les pays africains ont fait bloc lors de ce sommet de Malte face à l'Europe en disant il nous faut plus d'aide si vous voulez qu'on fixe en quelque sorte, si j'ose dire, la population sur place.
Là, on est vraiment dans l'échange inégal. C'est-à-dire les pays occidentaux disent vous voulez bloquer les migrants et nous, on vous donne de l'aide. En même temps, les pays africains sont très conscients qu'ils ne peuvent pas empêcher des gens de partir parce qu'ils n'ont pas les moyens et personne n'a les moyens de contrôler ces frontières à ce point-là. Donc il faut que les jeunes Africains, notamment, n'aient pas envie de partir. Mais ça va prendre longtemps. Et très honnêtement, je ne crois pas que ce soit même 2 milliards d'euros qui aident beaucoup à ça. Ça suppose qu'il y a un tissu économique en Afrique suffisamment dynamique pour qu'un jeune Africain, notamment un jeune Africain qui a fait des études, qui a investi pour un diplôme, se disent, mon avenir ici est globalement positif, les perspectives sont bonnes. On n'en est pas là, malheureusement, pour beaucoup d'Africains, et ça, c'est pas avec 2 milliards d'euros que ça va se régler, je pense.
Je rappelle donc qu'Alternative Internationale publie un hors-série intitulé « Climat, les solutions pour sauver la planète », numéro spécial COP21, fort bien fait, comme tout ce que fait Alternative Internationale. Yann, alors je trouve que dans l'actualité cette semaine, il y a aussi ces déclarations des Américains qui disent que finalement, cet accord qui débouchera sur après cette COP21, s'il y a accord, devra être juridiquement non contraignant, dit Washington, alors que François Hollande s'est empressé de dire qu'au contraire, il aurait force de loi.
Oui, tout le monde joue un peu sur les mots. Pourquoi est-ce que John Kerry, secrétaire d'État américain, ne veut pas d'un accord contraignant? Parce que si c'est un accord contraignant, il faut qu'il obtienne, que le président Obama obtienne un vote favorable des deux tiers du Sénat, ce qui, dans la configuration politique américaine actuelle, est impossible, puisque le Sénat est contrôlé par les républicains, et que les républicains sont très opposés à tout ce qui... D'abord, il y a beaucoup de climato-sceptiques, des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, en tout cas pas que le fait que ce soit l'homme qui en soit responsable, et donc ils sont très braqués à toute contraintes qui pourraient être imposées sur les États-Unis en général et en particulier sur les questions climatiques. De son côté, François Hollande, il lui faut un succès, il lui faut un accord qui soit quelque chose, qui soit pas juste une belle déclaration d'intention. Donc probablement on va arriver à ce qui est pas une contrainte sur les objectifs de réduction, mais sur les méthodes et les processus qu'il faut mettre en œuvre, sur la transparence, etc. Maintenant, qui dit contrainte dit sanction. Très sincèrement, je croirais que l'accord est contraignant quand il y aura des sanctions explicitement prévues et quand elles seront appliquées, ce qui sont deux choses différentes. On peut avoir des sanctions dans un accord et ne jamais les appliquer.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann, et nous devons faire un point sur les nouvelles violences en Centrafrique ces derniers jours. Pierre Pinto, hier, vendredi.
À Bambari, le calme était revenu hier après-midi. Malgré la tension, les boutiques rouvraient et les déplacés du site situé sur l'ancienne base Sangaris revenaient sur les lieux. C'est pourtant là que quelques heures plus tôt, en pleine nuit, des hommes de l'UPC, une faction de l'ex-Séléka, ont fait irruption, faisant usage notamment d'armes lourdes. La MINUSCA est intervenue. L'échange de tirs a duré 1h30. Bilan 3 morts et 30 d'abris incendiés. Au même moment, à 60 km de là, d'autres éléments armés attaquaient un autre site faisant 2 morts. Une démonstration de colère de la part de l'UPC après les attaques, assassinats et enlèvements quotidiens depuis la semaine dernière. Bambari et sa région se sont de nouveau enfoncés dans un cycle de violence et de représailles. À Batangafo, plus au nord, ces derniers jours ont été particulièrement tendus. Là encore, un groupe armé s'est attaqué à un site de déplacés pour venger la mort de 2 musulmans sur ce même site. Dalia Alachi, porte-parole du HCR en Centrafrique.
Cette confrontation entre groupes armés s'est terminée tragiquement par la mort d'au moins 7 civils ainsi qu'un casque bleu. Plus de 700 abris ont été brûlés et on sait que plusieurs personnes sont mortes calcinées au sein du site. En tant qu'agence des Nations Unies pour les réfugiés, nous condamnons ces terribles actes dont les victimes sont malheureusement et dans la plupart des cas d'innocents civils.
Plus de 10 000 déplacés de ce camp ont fui vers d'autres sites. Les humanitaires sur place craignent de nouvelles violences dans les jours, voire les heures qui viennent.
C'est dans ce contexte que le pape François arrive prochainement à Bangui, une visite que les autorités françaises ont demandé au Vatican d'annuler, comme nous l'a dit hier Antoine-Marie Izoard à Rome.
Pour sa visite à Bangui fin novembre, le pape François a un programme chargé pour à peine plus de 24 heures. Il doit ainsi célébrer la messe dans la cathédrale de la capitale de République centrafricaine, rencontrer les communautés évangéliques du pays, mais aussi les responsables musulmans dans une mosquée, et visiter enfin un camp de personnes déplacées fuyant les violences des milices. Dans ce contexte, sur fond de recrudescence des violences entre chrétiens et musulmans, l'entourage du ministre français de la Défense a publiquement fait part de sa perplexité sur les conditions de sécurité du chef de l'Église catholique, mais aussi et surtout des nombreux fidèles qui viendront à sa rencontre. Mais le Saint-Siège n'entend visiblement pas renoncer à la brève étape centrafricaine de ce déplacement du pape, qui entend bien au contraire en Afrique prêcher la paix. Pour lui, confie-t-on au Vatican, ne pas y aller serait un échec. Une autre source confirme la ferme intention du pape François d'effectuer cette visite et s'étonne un peu de la méthode employée par la France, qui somme toute, à part la présence de 900 soldats sur place, n'est pas le pays d'accueil. Paris, juge un haut responsable du Vatican, semble surtout vouloir se décharger de sa responsabilité en cas de problème.
Une semaine d'actualité, donc il faut nous arrêter, Yann Mince, en Centrafrique, avec cette reprise des violences, ces violences latentes en fait.
Oui, parce qu'on a des problèmes qui sont des problèmes non réglés. On a des déplacés en grand nombre dans des régions où effectivement différents groupes sont actifs, où une provocation, un assassinat peut très très vite dégénérer. On l'avait vu à Bangui il y a quelques semaines quand c'est l'assassinat d'un mototaxi qui avait déclenché des violences. Donc on est l'allumette peut être toute petite, j'allais dire, pour déclencher des violences aujourd'hui en Centrafrique, dans une société qui est très clivée avec des groupes armés qui ont toujours en perspective le fait de monopoliser le pouvoir d'une façon, ou en tout cas d'y être associé. Quand je dis pouvoir, je dis aussi argent, parce qu'il y a derrière des ressources qui sont, pour revenir à ce que disait notre auditeur tout à l'heure, ce sont pas seulement les Occidentaux qui pillent les ressources de l'Afrique, ce sont aussi des Africains.
Oui, alors il faut noter la réaction des autorités françaises à propos de ce voyage du pape. C'est quand même étonnant que les autorités françaises se mettent en fait à la place des autorités de Bangui pour dire au pape « non, ne venez pas ».
Je pense que ça participe probablement du fait que les autorités françaises sont conscientes de ce que les autorités centrafricaines peuvent et ne peuvent pas faire sur le plan de la sécurité du pape. C'est-à-dire la question, c'est est-ce que les forces de police centrafricaines sont vraiment capables d'assurer la sécurité du pape? C'est pas absolument certain. Est-ce que la MINUSCA est en état de le faire? C'est pas absolument certain non plus. Je pense qu'en creux, le message de la France, c'est attention, il n'y a pas grand monde qui peut assurer votre sécurité. La deuxième chose, c'est que la sécurité du pape, c'est évidemment important, mais c'est la sécurité des Centrafricains qui viendront par exemple assister à une messe importante en plein air ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui est prévu dans le programme, mais disons en tout cas un rassemblement. Un rassemblement, c'est la possibilité d'attentat, et du coup ce sera peut-être pas le pape qui serait touché, mais ce serait des victimes, qui seraient des fidèles qui seraient venus le voir, et ça c'est un réel risque dans un pays où, je le disais, la violence est à fleur de rue et à fleur de peau.
Alors, autre crise africaine d'importance, ô combien, c'est au Burundi. Yann, la communauté internationale, comme on dit, on sait qu'elle n'existe pas, mais enfin, l'expression existe, la communauté internationale s'inquiète du risque de violence intercommunautaire. Et là, ça rappelle évidemment des souvenirs sinistres. Dans ce pays, longtemps en proie à la guerre civile entre une armée dominée par les Tutsis et des rebelles Hutus, le Conseil de sécurité s'est à nouveau saisi de la question. New York jeudi, Maribourg.
Il aura fallu moins d'une minute de réunion du Conseil de sécurité pour voter cette résolution. Une unité de vue qui faisait défaut au Conseil depuis de longues semaines et qui met la pression sur les autorités burundaises qui sont désormais sous le radar de l'ONU. Alors bien sûr, cette résolution ne prévoit plus de sanctions, un compromis fait aux membres africains et à la Russie qui les juge contre-productives, mais elle assure que des mesures additionnelles pourront être prises contre les auteurs de violences. Philippe Bolopion, qui travaille pour l'ONG Human Rights Watch, juge cette résolution nécessaire et positive, car, dit-il, l'escalade des violences doit pousser l'ONU à agir vite pour évaluer comment aider le pays à éviter le pire. C'est donc une résolution qui joue clairement la carte de la négociation politique avec l'envoi d'un émissaire spécial, en l'occurrence le Marocain Jamel Ben Omar, pour assurer la médiation. L'option militaire, avec l'envoi de casques bleus par exemple, n'y est pas clairement spécifiée, mais dans les couloirs de l'ONU, tout le monde évoque une possible opération de maintien de la paix qui nécessiterait alors l'accord des Burundais ou une nouvelle résolution du Conseil de sécurité. Deux scénarios très peu probables.
Alors Yann, là il y a une réelle inquiétude justifiée de reprise de combats intercommunautaires, interethniques.
Il y a une reprise d'autant plus justifiée, une inquiétude pardon, d'autant plus justifiée d'une reprise de combats et de tueries que effectivement un certain nombre de dignitaires du régime de Nkurunziza ont eu des expressions. Je parlais de pulvériser les ennemis, je crois, et puis qui employait le verbe travailler, qui est un verbe qui avait été employé pendant le génocide rwandais pour dire assassiner. Je crois que ce même responsable a dit que si l'armée ne suffisait pas, il y aurait sûrement des citoyens volontaires prêts à faire le dit travail en question. Effectivement, c'est extrêmement inquiétant, d'autant que le génocide rwandais l'a fait un peu oublier par son ampleur, mais il y avait quand même eu des massacres peu de temps avant. Également au Burundi, de tête, oui. C'était 100 000 victimes. 100 000 victimes, c'est considérable. Donc effectivement, l'histoire peut bégayer. J'espère que non. J'espère que les responsables du régime ne veulent pas ça pour leur pays.
Et on espère aussi que la communauté internationale va se mobiliser. Là aussi, c'est peut-être l'expérience du Rwanda qui va la faire prendre les devants.
Oui, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire prendre les devants en l'occurrence concrètement? Ça voudrait dire une force de casque bleu. Contrairement à ce qu'on croit souvent, une force de casque bleu, elle vient faire du maintien de la paix et pas de l'imposition de la paix. Et le maintien de la paix, ça suppose qu'il y ait déjà un accord de paix. Or là, on n'est pas pour l'instant dans cette situation-là. On est plutôt dans, j'allais dire, dans un accord de guerre. Enfin, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. L'imposition de la paix, ça peut pas être des casques bleus. Il faudrait que ce soit une force multinationale de pays volontaires pour aller imposer la paix au Burundi, ce qui veut dire très concrètement aller faire la guerre à des militaires burundais éventuellement. J'ai du mal à le croire.
Alors l'actualité africaine, c'est aussi au Niger, 34 députés de l'opposition qui accusent le président Issoufou de haute trahison.
Oui, ben je crois qu'on est dans la préparation de la campagne présidentielle au Niger. Donc effectivement, voilà, les manœuvres sont commencées. Je connais pas suffisamment bien les mécanismes constitutionnels nigériens, mais je crois qu'il y a peu de chances que l'opposition puisse obtenir quelque chose concrètement. Alors je crois qu'effectivement il y a la question de la négociation avec Areva. Ça, c'est un problème qui dépasse le Niger, enfin les contrats de fourniture d'uranium, je veux dire, avec Areva. C'est un problème qui dépasse le Niger, c'est la transparence ou la non-transparence des négociations et des accords qui sont passés avec des multinationales, notamment du secteur minier.
Alors il faut préciser que dans ce numéro spécial d'Alternative Internationale intitulé « Climat, les solutions pour sauver la planète », il est aussi question de l'Afrique qui est évidemment concernée, comme tous les continents, réchauffement climatique.
Bien sûr, l'Afrique est concernée, alors pas tellement comme émetteur de gaz à effet de serre, puisqu'effectivement par tête d'habitant, comme on dit, ça n'a rien à voir avec même la Chine ou évidemment les États-Unis, qui sont par tête d'habitant très très au-dessus des autres, en tout cas de beaucoup d'autres, parce qu'il y a quand même le Qatar, un certain nombre d'autres, mais bon bref, l'Afrique n'est pas émetteur. En revanche, l'Afrique va subir et subit déjà probablement à travers les migrants climatiques, même si c'est une notion difficile à cerner, les conséquences. Et il y a deux choses dans le réchauffement climatique, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a la réduction des gaz à effet de serre, des émissions, et puis il y a l'adaptation au réchauffement qui aura lieu. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'Afrique, parce que l'Afrique est un écosystème fragile dans beaucoup d'endroits. Les Africains vont subir les conséquences et il faudra qu'ils s'adaptent. Il s'agit pas seulement de prévenir le réchauffement qui viendra, il s'agit déjà de s'adapter, de vivre avec celui qui est là aujourd'hui et qui sera encore plus là demain, c'est à craindre.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour le Mali maintenant, Yann, pour un geste émouvant, l'inauguration d'une école qui porte le nom de Johan Sutton à Tienfala, près de Bamako. Johan Sutton, notre consoeur tué en mission en Afghanistan. Reportage de notre correspondant Serge Daniel.
Dans la cour de l'école malienne de la localité de Tienfala, Johan Sutton est célébré 14 ans après son assassinat. Musique militaire, hymne national, Madame Korotumu Nyang, secrétaire générale de l'association Johan Sutton au Mali.
Ça fait 14 ans, c'est pas 14 jours. Et vraiment, elle est partie très jeune. Ça m'affecte parce que j'aurais pu être à sa place si j'avais fait le journalisme. Donc je me suis permis de mettre en place une association portant son nom.
Les parents de la journaliste décédée ont aidé l'école à installer une bibliothèque, la bibliothèque Johan Sutton. Elle a été inaugurée ce mercredi. Amadou Maïga, promoteur de l'établissement.
C'est 500 livres. Et en plus de ces livres que vous voyez, nous avons aussi reçu 5 liseuses électroniques. Et chacune de ces liseuses contient à peu près 1000 livres. Et nous espérons qu'avec cette bibliothèque, les enfants vont beaucoup apprendre.
Les livres denrées rares ici serviront également à des élèves d'autres écoles des localités voisines.
Alors, suite d'une semaine d'actualité avec une image réjouissante pour conclure cette édition, Yann, et nous ne quittons pas l'école d'ailleurs, l'image de la rentrée des classes en Guinée, notre correspondante Coralie Pierret n'a pas voulu manquer l'événement à Conakry.
Uniforme, cartable sur le dos, les élèves reprennent avec enthousiasme les cours. Cette année, ils ont dû attendre un mois avant de revenir à l'école. Tigui Danke Kamara est institutrice.
On a reculé ça pour une précaution parce qu'il y avait l'élection et après l'élection, il fallait attendre les résultats. Cette année, vous voyez comment il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Et l'année dernière, le jour de l'ouverture, il n'y avait pas assez de monde.
L'an dernier, à cause de la maladie à virus Ebola, les classes avaient rouvert en janvier 2015. Pour rattraper le retard, l'emploi du temps a été aménagé. Comme l'explique Fasciné Silla, le directeur adjoint de l'école.
Nous allons avoir plus de cours et puis il y a des matières aussi que nous allons compenser par les matières prioritaires. Le français, les sciences, la géographie, l'histoire. Si nous respectons ce calendrier, durant les 30 semaines de l'année scolaire.
Pour Adi Camara de l'UNICEF, l'enjeu, c'est que tous les enfants du pays apprennent au même rythme.
Nous ne pouvons pas dire que c'est une année perdue, parce qu'il y a eu des activités d'apprentissage, à travers même l'enseignement par la radio, pour suivre les cours qui ont été perdus.
L'enseignement est prévu jusqu'à fin juin 2016. Nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire comme chaque semaine. Un bonjour aujourd'hui à Bakary, à Bamako. Je serai à l'écoute, écrit-il, mais il se trouve que je suis en classe. Alors comme toujours, il n'y a pas de problème sans solution. Je vais l'enregistrer, écrit-il. Merci beaucoup Bakary de votre fidélité. Surtout ne manquez pas les classes. Un salut à Israël Moussa, à Siaka Sigiri, à Adia Ratou. Bonjour à Masrabe Anjamena. Je salue également aujourd'hui Taïrou Diakité depuis Mopti au Mali. C'est votre fidèle auditeur de chaque samedi, écrit-il. Et bravo aux aiglonnés maliens pour leur brillante qualification à la finale de la Coupe du Monde Cadet Chili 2015. Vous suivez cette compétition, je suis sûr, Yann. Enfin, salut à Hassan. Bonjour, une semaine d'actualité, écrit-il. Un bonjour chaleureux à Sylvie Berruet. Et je salue également mes anciens camarades de promotion de l'Université Unique à Conakry, Guinée. Suite et fin d'une semaine d'actualité en votre compagnie. Yann, vous avez vu, on a beaucoup parlé de l'école pour conclure cette émission avec cette délicieuse attention de cette femme qui a créé donc une école, qui a donné le nom à une école, le nom de Joanne Sutton.
Oui, c'est d'autant plus surprenant que notre consoeur est morte en Afghanistan, oui. Donc très loin du Mali. Mais en même temps, je pense que ça dit quelque chose sur la popularité de RFI en Afrique francophone notamment, et puis sur la proximité que ça induit d'entendre des journalistes de radio parler, d'être habitué à leur voix. Moi, je le vois comme auditeur de RFI. Ça devient des voix quotidiennes, des voix qu'on connaît pas personnellement. En dehors de nous deux, mais
c'est un début.
Mais qui deviennent familières. Et donc effectivement, quand quelqu'un meurt, je pense effectivement à Joanne Sutton, mais je pense aussi il y a longtemps à Jean-Hélène que j'avais eu l'occasion de croiser en reportage au Kenya. Donc effectivement, Ghislaine Dupont évidemment. Donc ça crée.
Claude Verlon, ça fait beaucoup de victimes entre parenthèses.
Ça fait beaucoup de victimes pour une seule radio. Et je pense que les auditeurs qui les entendent, bon, ils n'entendaient pas Claude Verlon puisqu'il n'était pas de ce côté-là du micro, mais ils savaient très bien que c'était grâce à lui, ils entendaient son nom, que c'était grâce à lui que les voix venaient. Je pense que ça crée une proximité et donc, effectivement, quand quelqu'un est tué dans des circonstances aussi tragiques que celles de nos confrères et consoeurs, ça a un impact sentimental, affectif, direct sur les auditeurs.
Alors, autre image rafraîchissante et touchante, c'est la rentrée des classes en Guinée et notamment à Conakry.
Oui, parce que effectivement, ce qui est frappant, c'est ce que disait cette dame. On a attendu la directrice, je crois, ou l'enseignante, il fallait attendre les élections. Alors évidemment, dans d'autres pays, on se dit pourquoi il faudra
attendre longtemps.
Il y a des pays où on les attend longtemps, effectivement, surtout les élections libres. Et puis, bon, en France, on n'attend pas le résultat des élections pour faire la rentrée des classes. Mais ça voulait dire qu'il y avait une angoisse, une inquiétude, au minimum, sur le fait qu'il pourrait y avoir des violences post-électorales si le résultat n'était pas reconnu par ceux qui ont perdu. Là, ça s'est bien passé, en tout cas, de ce point de vue-là. L'an dernier, c'était beaucoup plus grave. C'était Ebola et qui a eu un bilan évidemment tragique. Mais je me souviens, au plus fort de la crise, on avait quand même des inquiétudes encore beaucoup, beaucoup plus importantes quand on voyait la vitesse de progression de cette fièvre hémorragique. Aujourd'hui, cette année, c'est moins grave. C'est les élections. Ça s'est bien passé. Les enfants retournent à l'école. Voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils vont être obligés de travailler plus vite, visiblement.
Ouais, et sans vouloir donner de leçons de morale, c'est pas du tout le genre de la maison, en tout cas pas de cette émission. Il faut insister sur le rôle de l'école quand même. Il faut que notre ami qui écoute Bakary, qui nous écoute à Bamako aillent à l'école et écoutent RFI après, hein, pas oui, les deux en même temps.
Que maintenant, grâce au podcast, on peut écouter RFI en différé. Effectivement, dans des temps où moi j'étais à l'école, c'était plus compliqué. Ouais, effectivement, quand on ratait l'émission.
Rappelle les souvenirs aussi. Ouais.
C'est ça. Mais nous, on ne pouvait pas écouter la radio parce qu'on n'avait pas des téléphones portables ou des choses comme ça qui permettaient. Non, maintenant, grâce au podcast, on peut écouter la radio. Oui, évidemment, l'école, c'est comment dire, quand on y a été, on en garde des souvenirs contrastés, parfois agréables, parfois un peu plus désagréables. Mais c'est là quand même qu'on s'est formé en grande partie, là et dans sa famille et parmi ses amis. Donc l'école, c'est fondateur, fondamental. Ça a l'air d'une évidence, mais il faut le rappeler, effectivement. Ouais.
Merci Yann Mince, Alternative Internationale, Climat, les solutions pour sauver la planète. C'est un numéro hors série que je conseille, évidemment. On va se retrouver à la fin de l'année pour évoquer les événements de cette année 2015 très, très chargée, en votre compagnie, donc au mois de décembre.
Avec très grand plaisir.
Fin décembre, début janvier. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, qui réalisera aussi l'émission à la fin de l'année.
J'espère
une émission que vous pouvez podcaster. Demain, nous rendrons donc hommage à André Glucksmann, le philosophe qui nous a quittés cette semaine, avec la rediffusion d'un numéro d'idées de 2009. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.